Mathilde, dans votre billet culturel, vous vous interrogez sur la notion du dire vrai de Michel Foucault à MeToo.
Comment penser la violence, des mots qui s'est emparé de nos sociétés dans cette ère que certains qualifient désormais de post-Weinstein? La question traverse un numéro spécial du nouveau magazine littéraire qui vient de paraître. L'ère post-Weinstein, du nom du producteur hollywoodien accusé par plus de 100 femmes de harcèlement, agression sexuelle ou viol, c'est celle qui a engendré une vague de libération de la parole des femmes, vous en parliez, sur les violences sexistes, au sens où elles sont liées à un rapport de dissymétrie entre les sexes. Un moment accompagné par les hashtags MeToo et Balance ton porc, violent s'il en est. C'est alors ouvert un horizon pour faire progresser l'égalité, mais aussi se projeter dans le croisement possible de l'égalité et du désir. Comme le résume Raphaël Glucksmann, le directeur de la publication du nouveau magazine littéraire dans le manifeste WeToo, qui ouvre ce numéro spécial, pensons un mouvement qui, en abolissant nos privilèges d'hommes, nous libère tous. Car nous aussi, les hommes donc, nous voulons parler, séduire, aimer sans relation de domination. Voilà pour l'horizon. Mais ce temps d'abord, eh bien celui d'un changement et même d'un renversement du discours dans le contexte qui est le nôtre, à savoir une nouvelle géographie de l'information aux effets largement inconnus, dessinée par les réseaux sociaux, comme le formule l'écrivain et journaliste Mark Weitzman dans son article « Vertige d'une révolution ». Si l'on a beaucoup parlé des accusations formulées et de leur impact sur ceux qui sont visés, on peut peut-être revenir à la parole même. Comment elle peut se retourner contre l'individu qui l'a prononcée? Dans ce même article, Vertige de la Révolution, sont convoqués des exemples où ce n'est pas la personne qui témoigne qui porte l'accusation ad hominem, mais l'espace public 2.0 qui réclame un nom. Des exemples où la machine s'emballe sans enquête ni procès et où celle qui a parlé s'en retrouve incriminée. La victime ou celle qui n'en a encore que le statut devient alors une menace. Bien sûr, dire le vrai d'une violence sexuelle ou d'une violence sexiste ne renvoie pas au même fait. Mais comme je l'ai rappelé, c'est une dissymétrie ou un rapport inégalitaire qui est fondamentalement désigné dans ce moment. Dès lors, il s'agit d'expliciter une vérité face aux détenteurs du pouvoir et à un ordre social établi. Et cela ne va pas sans heurts.
Et c'est là qu'intervient Michel Foucault.
Michel Foucault, précisément. C'est le bon moment, Michel. Ce numéro spécial du nouveau magazine littéraire s'intéresse notamment au dernier discours que le philosophe Michel Foucault a prononcé au Collège de France en 1984, « Le courage de la vérité ». Il évoque la parésia de la Grèce antique, c'est-à-dire celui qui prend le risque de dire la vérité. Et pour Foucault, non seulement il y a des risques pour celui qui l'apprend, mais aussi pour l'espace finalement dans lequel c'est prononcé. Pour Foucault, s'il est vrai que la vérité du parésiaste, quand elle est reçue, peut à ce moment-là unir et réconcilier, ce n'est qu'après avoir ouvert un moment essentiel, fondamental, structurellement nécessaire, je le cite toujours, la possibilité de la haine et du déchirement. C'est pas ce que je nous souhaite, mais cela nous éclaire sur ce que nous vivons en partie. Un moment de vérité comme un risque à prendre, mais comment rester dans l'état de droit?
Mais alors, Maître Dosé, Thierry Lévy, l'avocat Thierry Lévy, disait à peu près l'inverse. Quand on est avocat, il faut avoir le courage de mentir et notamment le courage de faire passer pour innocent un coupable. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je pense que moi, je suis là pour savoir si dans un dossier, il y a assez de preuves pour condamner un coupable ou un innocent. C'est-à-dire que, quelque part, c'est ce que j'explique, le magistrat est chargé de la manifestation de la vérité. Moi, je suis là pour protéger quelqu'un qui est accusé, qu'il soit coupable ou innocent, d'une éventuelle erreur judiciaire. Je m'explique.
Bah, pas seulement.
Non. Vous parlez actuellement là d'acquittement ou de condamnation.
Non, mais vous ne veillez pas seulement à l'erreur judiciaire. Vous cherchez, j'imagine, à minimiser la peine de votre client.
Ah oui, ça c'est un autre débat. Il y a toujours deux débats. Il y a le quantum de la peine et puis il y a à un moment donné la relaxe ou la déclaration de culpabilité. Et bien évidemment, je suis là, moi, pour vérifier que dans un dossier, il y a assez de charges et de preuves pour condamner quelqu'un. S'il n'y a pas assez de charges ou de preuves pour condamner quelqu'un, qu'il soit coupable, m'importe peu.
Professeur Rebut.
Je ne suis pas avocat, donc là, c'est pas du tout quelque chose qui relève de ma profession. Alors, je pense que la façon dont Maître Dauzet a expliqué, a parlé de sa profession, oui, me semble tout à fait correspondre à ce que les textes prévoient dans ce domaine et à, ce que cette, à la façon dont cette profession doit être exercée.
Vous avez dit le vrai.
Non, mais c'est un volet de la présomption d'innocence qui peut paraître insupportable, mais c'est pour ça que nous sommes dans un état de droit. Il y a parfois des impressions d'audience qui amènent chacun à penser que cette personne est nécessairement coupable. Mais parce que dans le dossier, elle ne l'est pas, elle ne doit pas être condamnée.